nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Le visage et le corps très distingués. Elle porte une robe crème d'été. Didier est ébloui par cette belle femme qui semble si douce. Elle s'approche du lit. Voit qu'il ne dort pas. Elle lui dit : Tu es réveillé ? Oui. Tu as été très malade et je t'ai amené chez moi. Comment ? Parce que tu avais perdu connaissance. Tu te souviens ? Oui, madame. Comment t'appelles-tu ? Didier. Comment ? Je ne sais pas, madame. Elle lui dit : Bien, Didier. Le médecin va venir te voir, comme il le fait tous les jours depuis que tu es malade. Il va falloir que tu prennes des forces. Didier se sent là, fatigué. D'un coup, il sent une odeur de pomme qui lui donne la nausée. Et ferme les yeux. Se réveillant, il voit pencher sur lui un homme avec des lunettes blanches, des cheveux blancs et des lunettes. L'homme lui dit : N'ayez pas peur, je suis le médecin Meunier, un ami de votre bienfaitrice. Je vais vous ausculter. Il n'y en a pas pour longtemps. Laissez-vous faire. Didier lui dit : Il est dans une maison. Le docteur lui dit : Mais vous n'êtes pas assez malade pour qu'on vous mette dans une maison. Je ne veux pas aller dans une clinique. Ni dans une clinique, pourquoi faire ? Pour me couper en morceaux. Et me vendre. Le médecin ouvre l'épaule et lui dit : Qui t'a mis ces idées idiotes dans la tête ? On coupe pas en morceaux les enfants. Allez, laisse-toi examiner. Le médecin soulève sa veste de pyjama et commence à l'examiner. Voilà. Demi-heure plus tard, Le médecin lui dit
« Voilà, tout semble bien aller, un peu maigrichon, mais après un bon régime. De bonnes choses à manger, tout ira bien. Tu es un joli petit garçon. Moi aussi, j'avais un petit garçon comme toi. Malheureusement, il était appelé au paradis. Les anges me l'ont pris. » Didier lui dit « Moi, je ne crois pas que ce sont les anges qui voulaient me prendre. » Le docteur se lève, range ses affaires dans sa mallette, et lui dit, je vais appeler Madame Polycarpe pour qu'elle vienne te voir. Allez, à bientôt. Et le docteur sort de la chambre. Didier se dit que peut-être il sera heureux ici. Mais il se dit aussi qu'il le croyait lorsqu'il était dans la maison et que c'était un piège. La porte s'ouvre, c'est la dame. Elle va vers lui. Se penche et lui dit, parlez, je te trouve en très bonne forme, sauf qu'il va falloir bien manger et ne pas trop te fatiguer. Didier lui dit, vous appelez Madame Polycarpe? Oui, Amélie Polycarpe. Vous êtes mariée? Non, je n'en ai plus, j'ai plus de mari. Je suis veuve. J'habite seule, sans personne. À part vous, mon chéri. Tu sais, nous serons très heureux ensemble. Il se jette dans ses bras, sans sa douceur et le parfum de sa peau. Il est tout enivré. Mais c'est pourquoi cela lui donne envie de pleurer et de se dire et de dire « Maman !» Elle a les larmes aux yeux et lui caresse ses cheveux. Une nouvelle vie commence pour Didier. Elle a décidé de faire une demande officielle pour adopter cet enfant. Mais en France, c'est plus facile d'adopter un petit d'un pays étranger que d'un Français. Les demandes sont longues, bêtes. Les jours passent. L'enfant reprend des forces. Il mange bien, dort, se promène. La femme habite une villa près de Versailles, dans une jolie petite propriété avec un parc boisé. Elle passait ses journées dans le parc à courir ou à rêvasser. Amélie a une femme de chambre, un valet, un jardinier et un chauffeur. Son mari était directeur général d'une filiale Jeune Tout qui fabriquait des réacteurs atomiques. Son mari est mort en visitant une centrale. Un gauchiste, Anna, lui a envoyé une balle dans la nuque. Il est mort d'un coup, il y a une douzaine d'années de ça. Et Amélie a toujours vécu seule,
mais en regrettant de ne pas avoir d'enfant. Le temps passe. Didier se rétablit, il apprend vite les bonnes manières et lui et la femme sont très attachés l'un à l'autre. Il lui a acheté une garde-robe complète, lui a donné des cours de rattrapage. Comme il n'est pas encore adopté, elle a demandé une dispense pour le garder et lui faire son éducation. Ça lui a été accordé. Elle lui dit, un soir, alors qu'ils sont à table, en train de dîner au salon, j'ai l'intention de t'inscrire au lycée. Pourquoi? J'apprends très bien à la maison. Elle lui dit, oui, je sais, mais il faut te sociabiliser. Et puis, tu te feras des amis. C'est très bien l'école, tu verras. Il a été mené au lycée. On lui a fait passer un examen pour voir où il en était, pour le mettre dans une classe normale. Les jours passent.
Je suis en classe 3. Je sais pas à quelle classe je suis.
Avec Gobert, c'est avec
qui? Je sais pas.
C'est avec qui? Tu vois le grand bonnet là?
Didier.
La touche qu'il a. Tu vois, c'est la planche juste à côté. Ça marche pas.
C'est bien adapté. Il va au lycée tout seul. C'est fait des copains. Les jours passent.
Mais nos vélos là?
Non, non, non. J'ai jamais les
vélos. Ouais. Puis le vélo à Paris, c'est pas des super paysages, je pense.
Un jour, Amélie est invitée chez Charlotte Franblanc. Et oui, le monde est petit. Tout le monde se connaît. Elle est invitée à 15h prendre le thé. Ça fait des mois qu'elles ne se sont pas vues. Charlotte aide beaucoup Amélie, qui vit retirée du monde. À 15h, sonne au portail de son ami. Une voix à l'interphone lui dit « Oui ?»«
Bonjour, je suis Amélie Polica. J'ai rendez-vous avec Madame Tremblant. »«
Oui, madame, je suis au courant. Vous pouvez entrer. »«
Merci. »
Elle entend des clics de du portail. Elle le pousse et entre dans la petite courette. La porte se referme derrière elle. Elle suit le petit chemin de gravier qui mène à la maison. Monte le perron et va sonner à la porte de la maison. La porte est ouverte, c'est le domestique.
Bonjour madame.
Bonjour.
Il la fait entrer et ferme la porte.
l'amène à l'étage pour aller au grand salon. À elle. Bonjour, comme tu es jolie.
Bonjour.
Elle s'embrasse. Charlotte prend en bras Émilie et lui dit: viens, allons nous asseoir. Elle le mène dans un coin du salon où se trouvent des fauteuils et des petites tables basses. Elle lui indique un fauteuil. Tiens, assieds-toi. Elle s'assoit. Elle va s'asseoir en face d'elle.
Merci pour les fleurs. Elles sont délicieuses. Des roses jaunes. Je les ai mises dans ma chambre.
Émilie lui dit: j'avais peur de ne pas avoir le temps de vous les acheter. Alors j'ai préféré les commander la veille.
Il ne fallait pas.
Charlotte continue en lui disant:
je te trouve en pleine forme. Tu sembles très heureuse. Ne serait-ce pas le jeune duc que tu as rencontré en Autriche l'année dernière?
Charlotte, Émilie lui fait:
oh non, surtout pas.
Lui.
Je ne l'ai plus revu depuis mon départ d'Autriche, et puis il était trop assommant. Moi, je n'ai rien fait pour lui courir après.
Charlotte lui dit:
tu vis toujours seul, alors?
Émilie lui dit:
non, pas tout à fait, même pas du tout.
Charlotte lui dit:
tu as quelqu'un? Et je ne le savais pas. Qui est-ce? Une personne que je connais?
Émilie lui dit: non, tu ne le connais pas. Et puis, c'est avec un être délicieux, délicat, un ange.
Charlotte lui dit: tu es vraiment amoureuse. Qui est-ce?
Il s'appelle Didier.
Je ne vois pas, mais il y a tellement de nouveaux riches.
Émilie sourit et lui dit: c'est qu'il n'est pas riche du tout. Il n'a absolument rien. Et c'est ce qui lui donne un charme supplémentaire. Charlotte se dit qu'elle doit être complètement folle. Elle lui dit:
je vais faire servir le thé. Tu me raconteras tout ça en grignotant.
Elle appuie sur la sonnette. Émilie lui demande: et toi, quoi de nouveau?
Charlotte lui dit: depuis que Maurice est devenu un homme très important, je passe mon temps à préparer des soirées, concerts et tout.
On a frappé à la porte.
Entrez!
C'est le domestique.
Vous nous servirez le thé, s'il vous plaît. Merci.
Le domestique ferme la porte.
Charlotte lui dit: alors, ce Didier, tu m'en dis plus?
Émilie lui dit: il est blond, avec des cheveux qui ondulent, un charmant petit nez, de beaux yeux bleus profonds, une bouche un peu pulpeuse, qui semble toujours sourire. Le teint frais et délicat, mince, de taille, comme il faut pour son âge.
Charlotte lui dit: on dirait que tu me fais le portrait d'une poupée de cire.
On la frappe à la porte.
Entrez!
Entre une domestique avec un chariot pour le thé. Elle avance le chariot devant ses dames. Et demande à Émilie:
lait, sucre, citron.
Émilie lui dit: un doigt de lait.
La domestique la serre. Charlotte dit, moi aussi, un doigt de lait. Une fois que la domestique a servi, elle se retire. Kézébu gorgé, grignoté un petit gâteau sec. Émilie lui dit, Didier n'est pas un homme, c'est un charmant enfant que j'ai trouvé et veux adopter. Raconte. Elle raconte comment elle a trouvé Didier et l'histoire qu'il lui a dit. Après avoir écouté, Charlotte lui dit, c'est invraisemblable. À notre époque, l'on prenne des enfants pour en faire du mal. Tu es sûr que ce qu'il a dit est vrai? Émilie lui dit, je crois bien que oui. On parle de plus en plus d'enlèvements d'enfants, de cadavres. Je cherche à l'adopter, mais c'est très difficile. Si c'était un Congolais, ce serait plus facile. Charlotte lui dit, j'en parlerai à Maurice. Merci, faudra qu'un jour je te le présente. Tu verras, c'est un enfant adorable, un vrai petit ange. Depuis qu'il est avec moi, je suis heureuse comme je n'ai jamais été. Et toi, ton fils? Charlotte soupire. Il fait des hauts et des bas. Je suis assez peinée pour lui. Il fréquente une jeune fille, pas très intéressante, alors qu'il pourrait avoir de si beaux partis. Son mari arrive et va la retrouver au salon.
Entrez, il entre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et il va s'asseoir près d'elle.
Je vais pour le thé, Émilie. Elle te passe bonjour. Figure quoi? Qu'elle a avec elle un enfant qu'elle a trouvé dans la rue. Un petit garçon charmant.
Ton mari lui dit, au début, ils sont tous charmants. Mais après, ça se pense qu'à la carte de crédit.
Elle lui dit, pas celui-là.
Qu'est-ce que tu en sais? Tu l'as vu?
Non, mais elle m'a raconté son histoire.
Et elle le lui dit. Et lui dit,
faudra faire une enquête sur tout ça.
Il lui dit, si tu veux, mais on trouvera rien. Ils sont bien trop malins.
Et pour l'adoption du petit,
je demanderai d'accélérer la chose.
Merci.
Des jours passent, Didier est très heureux et a oublié ses ennuis. Un soir, il sort du lycée et va prendre son car pour aller prendre le métro. Tout à coup, il voit sur le trottoir d'en face Yann. Il panique et se met à courir. Il sent que Yann, il court après. Didier, salut. Et tu ne me reconnais plus? Yann l'a dépassé et lui fait face. Didier, tu t'es soufflé, lui dit. Salut. Où étais-tu passé? On t'a cherché de partout. Didier lui dit. J'ai affaire. Rire. À courir. Il descend les marches du métro. S'engouffre dans la foule, ne pas le regarder en arrière. Le métro arrive. Il entre dans une rame. Il sort du métro pour prendre son car pour Versailles. Thank you. arrive sans encombre chez lui. Il ne parle pas de sa rencontre à Émilie pour ne pas lui faire peur. Le lendemain, il va à ses cours en faisant attention qu'on ne le suit pas. Pour le retour, rien. Semaine passe. Comme il n'y a rien de nouveau, il se dit que Yann n'a pas dû parler de sa rencontre. Du matin, une voiture noire s'est arrêtée devant la maison de Madame Polycarpe. En sort deux hommes. Ils sont habillés de noir, costume noir, vont vers le mur de la propriété, sautent le mur. Se trouvent dans le parc. Sans faire de bruit, ils vont vers la maison. Font le tour. Terre, une fenêtre s'envolait à l'aide. Bien. Diamant, il le découpe. Et mettre la matière de l'intérieur pour tirer la targette. Puis ouvre la fenêtre. Une fois que la fenêtre est ouverte, un homme passe. Il voit à peu près qu'il y a à peu près 1 mètre de hauteur. Il saute. L'autre le suit. C'est un cellier avec des casiers et des cajots de légumes et fruits. Ils vont vers une porte. L'ouvre. C'est un couloir sombre. Les deux hommes prennent leur lampe de poche pour y voir. Le couloir donne
aux escaliers qui vont à l'étage. Un des hommes prend un papier de sa poche, le déplie et regarde. C'est un plan. Il dit, c'est tout. Deuxième étage, troisième porte. Ils prennent des escaliers. En évitant de faire du bruit, arrivés au troisième, au deuxième étage, ils vont vers la troisième porte. Ouvre la troisième porte et puis chante. S'approche tout doucement du lit.
L'homme sort de sa poche une boîte en métal, l'ouvre, en sort une seringue. D'un geste brusque, l'autre homme soulève les draps et met la main sur la bouche de Didier. L'autre lui fait la piqûre au bras et le maintient bien serré. Didier ne peut pas bouger. Il est pris entre les deux hommes. Il essaie de se défendre, mais la piqûre fait effet. Le liquide chaud entre au fur et à mesure dans le corps et le paralyse. Didier ne bouge plus. L'un des deux hommes le prend dans les bras. L'autre devance pour ouvrir la porte. Et ils sortent de la chambre. Près des escaliers, jusqu'au rez-de-chaussée, là, ils vont retourner dans le cellier. À la fenêtre et sortent par la fenêtre. Propriété sans être vu. Puis ils vont vers la voiture, mettent l'enfant sur le siège arrière de la voiture et eux entrent dans la voiture. Et la voiture s'est enfoncée dans la nuit. Thank you.
Le lendemain matin, comme tous les matins, Émilie va aller réveiller son petit pour qu'il aille à l'école. Frappe à la porte de sa chambre. Pas de réponse. Recommence. Rien. Elle se dit qu'il doit encore dormir. Elle ouvre la porte et entre.
Didier, il est l'heure de te lever.
La pièce est dans la pénombre. Elle va ouvrir les volets. Et voit que le lit est défait, ses vêtements du petit sont encore sur la chaise. Et se dit qu'il doit être dans la salle de bain.
Demi-heure plus tard, inquiète, elle se demande où il doit être. Téléphone au lycée, on lui dit qu'il n'est pas venu. Dans la matinée, la bonne lui dit que la vitre de la fenêtre du cellier était brisée de l'extérieur. Elle se demande si quelqu'un n'est pas venu dans la nuit chez elle. Elle retourne à la chambre de Didier et cherche quelque chose de suspect, mais ne trouve rien. Sauf que le lit est bien froissé. Elle décide de prévenir la police. Au commissariat, on lui dit que c'est peut-être une fugue.
Notre époque en font beaucoup. Ils croient tout à ce que leur dit la télé.
Aidé au commissaire, qui est un petit homme chauve, maigre, habillé d'un costume noir, et il est dans un petit bureau de rien du tout. Elle lui dit, « Je suis sûr qu'on est venu l'enlever. » Le commissaire lui dit,
« Pourquoi ? Pour une rançon ? » ?»«
Non, pour lui prendre ses organes. On a déjà essayé de le prendre plusieurs fois. Et même, des hommes l'ont séquestré dans une maison avec d'autres enfants pour lui prendre ses yeux. »
Le commissaire lui dit, « On n'enlève pas un enfant de chez ses parents. Pour ça, il y a tant d'enfants dehors qui traînent. »
Elle lui dit, « Oui, mais lui, c'est peut-être pas la même chose. Il faut me le rechercher. »
Et comment ? Il y en a tant qui disparaissent de tous les âges. Des millions d'hommes n'y suffiraient pas.
Alors que faire ?
Rien.
Elle va en parler à Maurice, ou plutôt à Charlotte, la femme de Maurice.
Il demande que l'on fasse des recherches.
Les jours passent, pas de nouvelles. Émilie dépérit. Mais elle garde espoir. Le commissaire lui dit,
faut vous résigner.
Maurice dit à sa femme,
on ne retrouvera jamais cet enfant, les enfants enlevés. On les retrouve blancs. Faut qu'elle se résigne, la pauvre.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.